Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h, jusqu'à l'arrivée du chum Max Lacasse qui va prendre vos appels. Cette semaine, c'est une semaine tout est permis. Et j'ai hâte de voir parce que hier, Max avait un niveau de patience plus limité.
Ouais, on dirait que plus la semaine avance, plus le petit sac de patience de Max se vide.
Il rétrécit, il devient titi.
Fait que c'est sûr que si vous appelez pour compter des histoires qui se tiennent pas debout, là. Et avec des histoires de « Ah, oh, là, il chicanait d'un stationnement. »
Un gars de la construction qui est arrivé, puis il a dit « Toi, mon immigré, puis là,
Tout le monde autour de la, j'allais dire de la table, là, mais tout le monde qui écoute, il est comme « Ben, on s'en calisse. »
Tout ça pour ça.
Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne semaine pour tester Max là-dessus.
Non, mais c'est...
On le verra, en tout cas, à compter de 22h, manquez pas ça.
Oubliez tout ce qu'on vient de dire. C'est la semaine pour tester.
C'est la semaine. C'est la semaine où Max, il se dit hey, « j'ai goût d'entendre des histoires qui vont nulle part et qui m'emmerdent. »
Voilà.
C'est cette semaine-là.
Faites-le chier.
Ouais, faites-le chier, hein, Max, c'est le bon temps pour ça.
On vit pour ça, d'autres.
Hey, oui, exact. Ça finit bien nos soirées. Hey, on ne perd pas plus de temps. Aujourd'hui, ça, dans les affaires, tu m'as demandé « T'as-tu eu une belle journée? » J'ai eu une belle journée, man. J'étais allé faire dépogner le dos. Puis également, j'ai vu que mon épicier avait recommencé à couper de la brisket en bout. Tu sais, t'es pas obligé d'acheter de la poitrine au grand complet à 170$. Il y a l'intelligence de la coupe anti-bout. Fait que je me pogne un bout à genre de 22-28$ pour de la brisket, puis je fume ça, puis ça me prend pas 12 heures à fumer.
OK, c'est moins long.
Ouais, c'est un petit peu moins long, fait que c'est le fun aussi.
Pas fou.
Ouais,
pas
vu que la pièce est moins grosse, là, ça fait vraiment la job. Et, ben là, j'ai l'eau à la bouche, alors on se lance.
Yo, wake up, it's barbecue time!
Le maître fumeur, Michael Béliveau. Une présentation spéciale, le Spacecast.
Exceptionnellement, un mercredi, le meilleur de la business, le maître fumeur lui-même, Michael Béliveau. Salut, man!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, ça va, je pète le feu.
Yes. Allez, écoute, avant qu'on se lance dans nos... Puis on va faire comme on a fait la dernière fois, parce que c'était bien le fun, des questions en rafale de ta communauté, de nos auditeurs qui nous ont écrit lors de la dernière chronique. Puis si les auditeurs ont des questions, là, qui leur pop sur le fly, 418-670-9098. Mais avant tout ça, j'aime toujours prendre un peu des nouvelles. Et j'ai vu que tu avais signé un nouveau partenariat avec le Marquier. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, parce que pour vrai, là, c'était pas sur mon radar. Je connais pas cette marque-là.
Ben, dans le fond, c'est une marque de plaques de cuisson, une marque de plancha. C'est français. Ça existe depuis... honnêtement, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est 1971. Fait que ça existe depuis longtemps.
Okay.
Tu sais, j'ai rien signé avec eux en tant que tel. Là, je suis comme après regarder un peu ce qu'on va faire ensemble. Le but, c'est de faire découvrir cette plaque de cuisson-là à travers le Québec. Puis c'est vraiment... C'est complètement fou. Là. Moi, je joue avec encore aujourd'hui j'ai joué avec deux fois. C'est comme un... Tu sais, il n'y a plus de problème de l'acier qui vient rouiller. C'est en fonte émaillée. Fait que tu peux donner des coups de ustensile là-dessus. Il n'y aura pas d'écailles. Ça ne marquera pas. À chaque fois que tu as lave, ça revient comme neuf. C'est anti-adhésif, puis c'est garanti à vie. Fait que c'est ça qui fait que, tu sais, c'est des belles machines.
Hey, parce que généralement, quand il est question de fumoir, barbecue, plancha, on est dans soit le made in China, soit le made in USA. C'est rare, mais ça me semble, des produits européens. À moins que je me trompe.
Oui. Ben non, t'as entièrement raison. Puis c'est quand même très, très rare. Puis c'est du haut de gamme. Tu sais, c'est pas une petite plaque de cuisson non plus qui est quand même... Ben, je dis ça, mais il y a plein de modèles, puis il y a plein de prix pour chaque modèle. Mais tu sais, c'est du haut de gamme, c'est du fait solide, c'est des brûleurs, c'est en inox. Tu sais, il n'y a pas de rouille qui se fait là-dessus. C'est complètement fou, puis ça monte jusqu'à 700. Fait que tu sais, personne va me dire hey, « ouais, mais c'est intéressant de saisir à 700 ». Non, mais c'est pas là qui est le but, c'est que... Mettons, j'arrive la soirée, j'ai fait comme une livre et demie de poulet en lanière que j'avais fait mariner. Quand j'ai mis ça à la plaque, elle s'est pas refroidie. Fait que c'est l'avantage que t'as, parce que souvent, t'arrives, t'as une plaque de cuisson, c'est bien le fun, tu drops la bouffe dessus, puis la température, elle descend, là, ta viande, elle se met à bouillir. Tandis que quand tu as une plaque de cuisson qui garde sa chaleur, l'avantage que tu as, ben, c'est que ça fait une caramélisation qui est incroyable.
Ah, OK. Ben oui, j'avais pas pensé à ça.
Ben oui. Ben, c'est ça souvent le problème. Tu sais, hey, on reçoit de la gang, c'est le fun, une grosse plancha, drop la bouffe là-dessus, la plaque. C'est la même affaire que, comme on avait dit la semaine passée, c'est une grosse raclette. Là. Ouais. Tout le monde met leur crevette congelée dans le milieu de la table. C'est long avant que la raclette reprenne le dessus. Là.
Les gens qui font de la plancha, est-ce qu'ils en font en hiver? Tu sais, grill, oui, fumoir, oui, plancha. J'ai jamais vu ça.
Mais de plus en plus, oui, il y en a de plus en plus. Puis, tu sais, je l'ai vu sur Maître Fumeur cet hiver, justement. Puis, il y en a qui posent des questions. Il y en a qui, tu sais, est-ce qu'on peut faire de la plaque de cuisson l'hiver? Il n'y a aucun problème, aucun. C'est le vent, je pense, le pire ennemi de la plaque de cuisson. Pourquoi? Parce que tu as tout le temps une entrée d'air entre ta plaque de cuisson et les brûleurs. Fait que, tu sais, mettons qu'il vente en fou et qu'il fait moins 40, bien, c'est sûr que ta plaque va être un petit peu plus longue à chauffer. Puis, les brûleurs peuvent même aller jusqu'à s'éteindre.
Ah, ouais, OK. All right, allez, on se lance dans les questions qu'on a de nos auditeurs. La première vient de Eric, qui est un auditeur de l'émission, qui demande « Que pense le maître fumeur des machines mixtes? Moitié grill, moitié fumoir, comme le Charleston de Pit Boss? »
Ben, pour être honnête, moi, je ne trippe pas là-dessus. J'en ai pas vu, justement, qui était fait solide. C'est pas que ça fait pas la job. T'sais, souvent, ça va faire le travail. Il y en a qui ont une plaque de cuisson, il y en a qui ont un fumoir, il y en a qui c'est barbecue et fumoir, un à côté de l'autre. Puis tous les modèles que j'ai vus à date, est-ce que la cuisson est bonne? Oui. Est-ce que la plaque va être bonne? Oui. C'est, on dirait, dans la confection de la bébelle, tu rouvres le couvert, ça swing de tout bord, tout côté. Okay. Tu sais, j'ai jamais eu à date un wow là, de faire OK. Tu sais, le kit est complètement fou. Là.
OK. Ouais, ben, honnêtement, j'étais content que cette question-là apparaisse parce que le Charleston, je pense que je l'ai vu au Walmart récemment, dans les 2-3 dernières semaines, il était quand même dans un gros rabais. Puis j'avais quasiment un petit goût amer en bouche. Parce que je viens de m'acheter un nouveau Traeger.
Mais là, t'es pas dans la même gamme. Là.
Non, c'est ça.
Pit Boss sont des super bonnes machines. J'en ai, je les adore. C'est une entrée et milieu de gamme parce qu'ils ont quand même des bonnes machines. J'ai joué avec un Pro Series justement la semaine passée. Ça allait super bien. Mais Traeger, c'est comme la sommité, c'est une coche de plus. Là.
OK. Ben, c'est ça. Tant mieux, tu me rassures parce que.
Ouais, ne pleure pas.
il est intéressant. Là, c'est un genre de petit fumoir d'un bord, petit grill de l'autre, le Charleston. Ouais. Je trouvais ça. Ça me parlait, mais on dirait que moi, j'aime ça, les gens qui choisissent leur camp, là, qui font pas les deux, qui se concentrent sur ce qu'ils font de mieux.
Ouais, ben, c'est en plein ça. Vous êtes mieux d'avoir les deux machines séparées, autant pour les trimballer ou que vous n'avez besoin que d'avoir un à côté de l'autre. Là.
Sinon, dans cette catégorie-là, t'en as-tu un à point? T'sais, quelqu'un qui se dit là, moi je suis pas le maître fumeur, j'ai pas besoin de quelque chose de blindé, mais je veux quand même avoir le meilleur du mix de ce genre-là. Y a-t-il une compagnie qui a tiré son épingle du jeu?
Parce que, tu sais, dans le fond, il faut comprendre, il y a deux affaires à voir. Tu sais, il y en a qui vont acheter un fumoir. Tu sais, on vient de parler d'un mix, fumoir et barbecue un à côté de l'autre. Tu sais, si on regarde un fumoir qui monte à 5 puis à 600, ben. Mettons, au granule, ben, t'as pas besoin d'un barbecue à côté. Parce que, dans le fond, tu vas pouvoir venir saisir ta pièce de viande dans ton fumoir ou faire carrément du barbecue avec. C'est sûr que là où qu'on peut se dire, bon, ben, tu sais, je peux pas faire les deux en même temps. Mais, tu sais, honnêtement, rendu là, je pense que le best, ça serait de s'acheter un petit barbecue au charbon. Parce que non, tu sais, plus j'y pense, moins je vois du monde qui ont tiré leur épingle du jeu. Puis là, je vois maintenant des barbecues avec une plancha à côté. Ça aussi, là, cassez-vous pas la tête, Amazon, regardez des plaques. Il y en a en fonte émaillée, j'en ai acheté une pour un tournage super que j'adore, elle a coûté 130$. J'en ai parlé la semaine passée, il y a plein de monde qui m'ont écrit.
Oui.
Fait que je la mets sur mon barbecue, puis si vous avez le moindrement plus de brûleur, ben vous avez une section, vous pouvez faire du barbecue à droite, exemple, puis la plaque, vous la laissez à gauche. Ben vous pouvez faire les deux en même temps.
Ah, il y a entre autres Napoléon qui en font une pour les barbecues de Napoléon. Là, pis,
exact.
Elle rentre built-in, là, faite pour ça. Là, c'est toujours le fun. Pis ça fait une belle job. Là, j'avais offert ça à Fête des Pères quelques années à mon père. Puis il me semble qu'il l'a fait un bon bout.
Ah non, c'est vrai, ça fait une belle job. C'est drôle parce que j'ai acheté un autre fumoir sur Marketplace il y a une couple de semaines, la semaine passée, je pense. Puis le gars, il avait justement acheté la plaque pour aller sur Napoléon, puis il tripait dessus. Là.
OK. Hey, maintenant, question, je pense que c'est quelqu'un de ta communauté, Simon, qui demande les sauces barbecue maison et les styles de sauces en particulier. Est-ce qu'il y a... Ouais, vas-y, excuse.
Ben, tu sais, c'est une base. Puis les sauces, c'est tellement une question de goût. C'est sûr que les sauces barbecue, typiques barbecue, là, on va souvent avoir de la tomate à l'intérieur. T'sais, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez acheter des tomates en canne ou de fameux ketchup. Tu sais, trois quarts des sauces sont buildées à base de ketchup. Regardez juste les ingrédients en arrière. Puis après ça, ben, l'ingrédient qu'on va souvent voir dans la sauce qui va faire le plus beau glaze, c'est la mélasse. Fait qu'aussitôt qu'on vient mixer mélasse, ketchup, ben là, on s'en vient qu'une sauce barbecue avec une bonne base, puis après ça, on rajoute ce qu'on veut à l'intérieur.
Il existe-tu des sauces qui sont pas loadées de sucre? Ça existe-tu, ça?
Ben oui, il y en a plein. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai vu la question aussi sur mon sur le canal VIP, puis ça m'a tellement le goût de manger une sauce barbecue blanche. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une sauce, ouais, c'est googlez ça, barbecue blanche, c'est une sauce faite à base de mayo. Puis un peu de sucre, un peu de cassonade. J'avais fait justement un contrat pour le bleu-blanc-rouge, puis il fallait que je fasse une sauce bleu-blanc-rouge, puis j'avais fait ma fameuse sauce barbecue blanche. C'est vraiment bon.
Okay.
Essayez ça, c'est les wings, là, les ailes de poulet là-dedans, puis aussi la sauce au fromage bleu. Faut que vous aimez le fromage bleu, mais avec des ribs, là. Le gras du ribs avec la sauce au fromage bleu, c'est complètement fou.
Ah, c'est une bonne idée, Crème. Mais justement, parce que, tu sais, souvent, la sauce barbecue au sens large est tout le temps à peu près dans les mêmes arômes.
Tout le temps. Puis, tu sais, on se tanne, puis on dit que tout goûte la même affaire. Fait que, tu sais, pour vrai, là, sauce fromage bleu, googlez ça, c'est sûr vous allez tomber sur ma recette. C'est bon sur un pas pire temps.
Puis ça vaut à peine aussi, là, tu sais, pour certaines pièces, là, mettons du bœuf, des fois, essayer comme le chimichurri, ça peut, tu sais, tu peux te surprendre là-dedans. Ou mettons, tu te fais des côtes levées, tu te fais une sauce un peu plus thaï, un peu plus asiatique. Ça peut vraiment surprendre plutôt que la fameuse Memphis standard.
Ben, juste de faire différent, ça change pas.
Tellement. Puis tu sais, un plat d'aluminium, là, avant, mettez du miel là-dedans, du chili doux. Tu sais, amusez-vous. Puis après ça, tu viens juste dipper ton ribs sans le laquer. Tu viens vraiment le coucher dans ton bain. Tu vas le remettre sur le grill, là, sur le fumoir, un petit 15-20 minutes qui viennent glaiser. Tu sais, amusez-vous. Il n'y a pas de recette magique. Là, ça reste de la bouffe.
C'est quoi ta sauce favorite commerciale pour le fun?
Ma sauce favorite commerciale, c'est la SJB Think Red Caramel.
Think Red Caramel. OK. Ah, ouais. Elle est toujours en vente, celle-là?
Oui, elle est toujours en vente. Puis là, ce que je... Bon, je m'en vais prendre le mérite, mais ce que ma blonde a déjà fait, puis là, maintenant, quand je fais du traiteur, je copie. On mélange ça un peu avec de la mayo, avec du sirop d'érable, puis un shitload d'ail en purée. Là. Puis je fais des baluchons de ribs. Dans le fond, je cuis des ribs pendant 7 heures. Fait que c'est filoche. Je mélange ça au fromage à la crème, je mets ça d'une pâte filo, une pâte feuilletée. Fait que ça me fait des petits baluchons, puis on va dépaisser là-dedans, là, dans mes traiteurs, le monde capote là-dessus.
Wow, ben je comprends donc. Très bonne idée de Marie-Claude qui a écrit « Quel est ton pire fail culinaire? » La fois que tu t'es dit « Ah, j'ai une bonne idée », puis finalement, ça a goûté à charogne ou ça n'a pas marché. Ça t'est-tu déjà arrivé, ça?
Ben c'est sûr, ça m'est arrivé plein de fois, mais là, j'essaie de trouver, mettons, le pire. Ben moi, honnêtement, mes pires fails, c'est dans la pizza.
OK. Et puis je pense que t'es pas tout seul, hein, parce que souvent aussi, j'ai l'impression que tu vas enchaîner et faire jusqu'à ce que tu aies la bonne machine.
Oui, aussi, mais tu sais, c'est parce qu'on est habitué, tu sais, les fours à pizza, là, au bois, là, j'en ai un, je tripe là-dessus, mais je fais même pas de pizza là-dedans. Je fais, tu sais, je l'ai fait un filet de savon sur une bûche, tu sais, je l'avais parlé un peu. Mais on dirait que j'ambitionne ces pizzas. Fait que, tu sais, c'est pas fait pour ça, là. C'est supposé d'être des cuissons low and slow, des cuissons rapides de 90 secondes. Moi, j'arrive avec des pizzas qui ont genre 4 livres de brisket dessus. Fait que ça donne jamais un bon résultat. Puis ça, c'est quand je me rends au four à pizza. Moi, je me rappelle une fois, puis ça a été un running gag sur ma fumeur. J'arrive pour sortir de chez nous et j'ai une palette de pizza, là. Tu sais, t'as la pizza au bout. Et j'arrive pour sortir de la porte-patio, mais moi, pas assez brillant. La palette fait plus que la longueur de la porte-patio. Fait que la palette vient coller dans la fenêtre, mais là, moi, je peux plus rien faire. Je tiens la pizza comme dans la porte-patio de verticale. Là, elle, c'est comme si elle regardait dehors. Là. Fait que là, je me recule un peu, mais là, elle se met à glisser dans vite, puis elle tombe dans les bottes. Mais tu sais, une pizza crue d'un soulier sur le bord de la porte-patio. Fait que ça a été... C'est ça. Je pense que c'est la pizza, mon pire ennemi.
T'en as-tu un, toi, Louis, un fail culinaire?
Un peu dans le même genre. Tu sais, oui, j'ai scrappé beaucoup de recettes, mais dans mes premiers briskets, à un moment donné, je le fais, tout va bien. Puis là, arrive le moment de sortir le brisket pour l'emballer.
Ouais, OK.
Puis mon fumoir chez nous, je l'avais pas mis sur la galerie parce que la galerie avait fait que si je mets mon fumoir sur la galerie, la maison va sentir le fumoir au complet. Fait qu'il est un petit peu plus loin, comme dans Garnotte. Et ben là, en sortant mon brisket comme avec deux pinces,
oh non.
Les pinces avaient des bouts en plastique. eh bien, il y a une des deux pinces que les deux bouts en plastique ont décidé de quitter les pinces et le brisket de me rester pris dans une pince. Puis vous aurez compris qu'un brisket au complet qui tient dans le vide dans une pince, qu'est-ce que ça fait? Ça tombe à terre. J'ai essayé de le passer à l'eau après, puis tout, mais s'il y avait de la garnotte dedans, ça croustillait d'un dent. C'était dégueulasse. Ça a été un fail monumental. 120$ au vidange.
Ah, c'est ça. C'est triste. Puis, tu sais, je pense à ça, puis le nombre de fois, je me suis pas réveillé, moi, d'une nuit. Tu sais, j'ai calculé plus. Là, partir, mettons, 150 livres de porc effiloché, puis me dire, mettre mon cadran, puis me réveiller le matin, faire comme, OK, j'ai éteint mon cadran, puis je m'en ai pas rendu compte, puis me lever le matin, puis
c'est sec.
C'est du charbon, là, tu fais comme quoi.
J'essaie de penser. Moi, je pense que mon pire fail fumoir, c'est vraiment, puis je te l'avais déjà compté, là, c'est mon bacon. En fait, c'est mon sel au bacon, là, où j'avais pris la recette prévu pour la salaison de mon bacon, tu sais, pendant une semaine, tu sais, tu le vires de bord, pis tout. Sauf que moi, j'avais compris que ce sel-là, fallait que tu le mettes à tous les jours.
Oh!
Fait que, man, à la fin, là, quand on a eu le fumé, là, ce bacon-là, là, il picotait sa bouche tellement qu'il était salé.
Hey, tu peux faire cuire ton bacon sur ton bacon parce que c'est rendu
J'aurais pu étendre mon flanc de porc, là, ses marches, puis ça aurait fait fondre la glace en hiver. Non, c'était quelque chose. Sinon, je sais pas pourquoi je le partage parce que c'est une chronique fumoir, mais il y a eu de la fumée impliquée, fait qu'on ça va compter. Mais il y a un moment donné où j'étais particulièrement batté. Je me disais, j'aime ça le popcorn. J'ai des Frosted Flakes à la maison. J'aime ça le beurre. Pourquoi je mettrais pas du beurre sur mes Frosted Flakes? Ça va faire du popcorn de nouveau genre.
Non, je suis pas sûr.
Ça devait être mou, dégueu. Hey, ça ressemblait à quoi pour le fun?
Ça coûtait deux bouchées absolument dégueulasses, ce qui fait que maintenant, ces céréales-là sont bannies parce que j'ai comme un post-trauma de ça. Là.
Du beurre, c'est
Frosted. Il faut être batté beaucoup.
T'étais aussi frosté que tes Frosted Flakes.
Oui, en effet. Toute une tentative échouée. Maintenant, Maxime qui veut... Et puis ça, c'est un de plusieurs qui nous le demandent. Je me souviens, la semaine passée, il y a des gens qui voulaient que je t'en parle. Et là, ils reviennent à l'assaut. Des recettes de saucisses. Est-ce qu'il faut mettre absolument de la nitrite? C'est quoi le stock nécessaire pour faire des saucisses?
Bon, dans le fond, pour faire des saucisses, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un ratio de gras d'à peu près 70-30. Donc, 70 de... même 40-60, mais 30 % de gras, puis il y a 70 % de viande maigre. La meilleure pièce de viande qu'on peut prendre pour ça, c'est l'épaule de porc, l'échine. Puis vous n'aurez pas besoin. Prenez le soc de porc désossé. Fait comme ça, directement dans le moulin à viande, vous n'avez pas d'autre chose à faire. Une fois que c'est mélangé, dans le fond, il y a la Twix qu'il faut savoir. Ils appellent ça de la farine à saucisse qu'ils vous vendent en boucherie. C'est quelque chose qu'on va venir rajouter à notre mélange. Puis pourquoi qu'on vient rajouter ça? C'est quand on va venir le faire cuire, le gras va être porté à sortir. Parce que veut pas le gras, s'il n'y a rien pour se pogner après, il va finir dans le fond de la tôle, il va finir dans le fond du fumoir du barbecue, puis le feu va prendre, puis votre saucisse, peu importe le nombre de gras que vous allez mettre, elle va être sec. Fait qu'on va venir rajouter du lait en poudre. OK? Oh. Le lait en poudre, dans le fond, tu ne le verras pas, tu ne le goûteras pas, tu mélanges ça dans ta chair à saucisse, et quand ça va cuire, ce lait en poudre-là, il va venir boire le gras.
Okay.
Fait qu'elle va rester dans le boyau. Parce que je vois du monde dire, hey, là, moi, je suis rendu 50 % de gras, 50 % de viande, puis ma saucisse, elle est sec. Puis, il m'envoie une photo dans un plat d'alu, c'est un lac. Il y a un fond de gras dedans. Mais pourquoi que le gras s'en va? Parce qu'il peut pas, il n'y a pas de lien, il ne peut pas rester. Fait qu'en mettant de la farine, il y en a que c'est de la mie de pain, moi, j'aime pas la texture. En mettant du lait en poudre, ça vient vraiment absorber le gras, puis tout le goût est dans le gras. Fait que tu te retrouves avec une saucisse qui est juteuse, puis tu n'as pas besoin de mettre une tonne de gras pour rien.
Ça, c'est
le truc numéro un.
Ça aurait-tu pu être une possibilité, Michael, d'utiliser, mettons, tu sais, des gros chips écrasés ou du panko, des bidules de même?
Yes! Exactement. Dans le fond, tout ce qui est un peu de la mie de pain, c'est ça, les chips écrasés, ça va venir donner un goût. Tu sais, on le voit dans les modes, il y en a qui vont mettre des doritos, des fritos, des ci, des ça. Ça va venir justement boire quand même du gras, mais le problème un peu qu'on va retrouver avec les chips, c'est que c'est déjà très gras. Fait qu'ils ont déjà leur huile à l'intérieur, mais l'huile va vraiment goûter que les chips. Mais tu sais, je vous conseille d'en rajouter quand même du lait en poudre parce que quand ce chip-là va se vider, ben il y a quelque chose qui va pouvoir le ramasser, ce gras-là. Là.
Une chance, tu l'as dit, par exemple, ça goûte pas le lait en poudre parce que sérieux, c'est une des ingrédients les plus dégueulasses qu'on m'a dit depuis longtemps. Là.
Ah ouais, mais non, c'est ça. Puis souvent, le monde, ils savent pas pourquoi il y a ça dans une recette, mais c'est que ça sert à ça. Et l'autre truc aussi, la glace. quand on va venir barater. Barater, ça veut dire quoi? Quand on va venir mélanger notre mélange de chair, c'est l'étape la plus importante quand on fait de la saucisse. C'est souvent négligé. C'est ça qui va faire en sorte que... Puis là, le monde me dit, pourquoi il faut de l'eau froide? Pourquoi il faut du vin froid? Pourquoi il faut de la glace? C'est que c'est chimique. Quand on va venir brasser notre viande avec la glace, avec du liquide froid, il y a, je ne sais pas le vrai terme scientifique, mais le collagène puis la protéine de la viande va venir sortir et resservir de l'IA. Fait qu'on va se ramasser avec une boîte collante et non des chunks de viande hachée.
OK.
OK? Fait que ça, ça va venir faire en sorte qu'on va avoir une saucisse qui est lisse.
Fait que t'es-tu mieux... Excuse-moi de te couper, mais t'es-tu mieux de... T'es-tu mieux de faire ton mélange, le mettre au frigo longtemps ou bien vraiment tu mets des chunks de glace, là, carrément là, des cubes dedans?
Moi, je mets carrément des cubes de glace à l'intérieur. Puis plus qu'on va venir le brasser... plus que ta viande va devenir lisse. Fait que, exemple, j'ai une saucisse italienne, je veux encore avoir des petits morceaux dedans. OK? Je veux une texture. Je vais brasser jusqu'à temps que je regarde puis j'ai cette texture-là. Si je continue à brasser, peu importe, souvent le monde pense que c'est la grille du hachoir qui va changer. Quoi? Ça change absolument rien, la grille du hachoir. Tu pourras avoir des morceaux gros comme le bout de mon petit doigt. Plus que tu vas brasser avec de la glace, ça va venir se liquifier jusqu'à avoir une texture de saucisse à dog. C'est-à-dire une texture lisse, 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 comme si c'était de la bouillie. Pas de la bouillie, mais vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais, ouais,
ça va te passer entre les doigts, puis ça va être quasiment liquide. Ça, c'est quelqu'un qui a baratté extrêmement. Mais qu'est-ce qui commence avec le fun? C'est de jouer. C'est-à-dire que je prends mon gras, que j'ai haché une fois, lui, je le mets de côté, je touche pas. Je prends ma viande, que elle, je barate, je brasse avec de la glace, elle vient quasiment liquide, et je viens rajouter mon gras à la fin. Fait que quand on coupe un pepperoni ou un salami, on voit tout le temps des morceaux. Je sais pas si vous avez déjà regardé ça à la lumière. Vous allez voir des morceaux de gras, des chunks à l'intérieur.
Oui,
des trucs blancs. Pourquoi? C'est que ça va venir donner une texture, ça va donner une lisse en bouche, je peux dire ça. Sinon, ben, on goûterait pas, puis les saveurs seraient pas aussi intenses. Fait que, puis à la fin, on vient mélanger les deux ensemble, mais on va pas barater le gras. Fait que c'est là qu'on vient jouer avec nos textures. Puis mettons, je veux rajouter du fromage en grain, ben là, c'est à la toute fin que je viens le rajouter, puis je le brasse juste un petit peu pour pas venir défaire mes morceaux. Fait que c'est vraiment, tout est dans le brassage.
Puis tout ce qui est aromate, est-ce que tu conseilles d'y aller, mettons, en mettant une sauce directement, ou bien on est mieux d'y aller avec un rub, une épice pour...
On va tout y aller avec des épices, puis on peut y aller aussi avec des épices qui sont fraîches. Je vous conseille jamais de venir mettre un liquide. Exemple comme la sauce liquide, ces choses-là. Oui, mettons un peu de sirop d'érable, il n'y a pas de problème. Mais la sauce, justement, pourquoi? À cause du sucre, quand vous allez la faire griller, ben, là, ça peut venir brûler, tout dépendant de la sorte de cuisson. Tu sais, Ginette peut la faire dans le poêle, comme Thomas peut la faire sur le barbecue, puis l'autre peut la faire fumer. Fait que ta sauce ne réagira pas pareil à la cuisson, tandis que le rub, peu importe ce que tu vas faire avec, la réaction va être la même. Fait que ce que je vous conseille pour les sauces, mettez-les après.
Toi, pour ton optimal, là, tu conseilles quelle cuisson? Parce qu'au fumoir, faut que tu aimes l'espèce de crack, là, tu sais, le crack que la saucisse a fait. Ben, à moins que c'est moi qui ai moffe, mais à chaque fois que je fais des saucisses au fumoir, ils ont tout le temps l'espèce de côté croquant.
Ça dépend ce que tu vas te servir comme boyau. Il y a deux types. Bon, j'ai toujours pas répondu aux nitrites, j'adore ça. Il y a deux types de boyaux qui existent quand on va venir faire de la saucisse, autant de la saucisse fraîche que de la saucisse au fumoir. Il y a les boyaux de collagène. Boyaux de collagène, là, ça va être comme un peu ce qu'on retrouve. J'essaie de voir les saucisses qui sont faites avec du boyau de collagène, mais. Ça va être une saucisse qui est uniforme, puis souvent, elle n'est pas twistée. Elle est juste coupée au bout. On voit que le bout est encore ouvert, une petite affaire. Ça, c'est un boyau de collagène. Et il y a le boyau naturel qui est carrément des tripes de cochon qui, eux, vont être twistées. Puis tu vas voir, la saucisse va tout être un peu curvée.
OK.
OK? La saucisse qui est curvée, qu'est-ce qui va arriver quand on va venir la faire fumer? Si c'est à basse température, comme le fumoir 225-250, ça va être plus caoutchouteux, comme le claque que tu dis, puis plus cuir. Comme croquer dans du cuir que moi, j'aime pas tant en bouche. Mm-hmm. Quand je vais venir faire des saucisses pour le fumoir, là, je vais utiliser un boyau qui est un boyau de collagène.
OK. OK. À une nitrite maintenant, tu voulais.
Exact.
Parce que les gens ont bien peur de pogner le botulisme depuis la semaine passée.
Le nitrite, dans le fond, si vous me dites que vous faites de la saucisse, bien normal. Mettons, là, moi, aujourd'hui, je pousse de la saucisse, je mets ça dans un boyau, je la fais cuire à soir ou demain, il n'y a pas de problème. Si je ne la fais pas cuire à soir ou demain, je la mets au congélateur, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le botulisme, on l'avait dit la semaine passée, c'est dans un milieu qui est anaérobique que ça peut se développer, dont un boyau de saucisse. Il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur. Fait que si jamais vous me dites que vous faites des saucisses, que vous voulez les conserver un peu plus longtemps, vous venez les faire fumer donc dans un fumoir, dans un milieu qui est anaérobique, ainsi de suite, ou même vieilli, là, je vais vous conseiller de mettre du nitrite, puis c'est 3 grammes de nitrite par kilo.
OK. De saucisse au complet, là.
Oui, dans le fond, vous... Vas-y.
Ben, en fait, de l'intérieur, comptant le... Est-ce que tu comptes le poids des gaines et tout ça?
Oui, bien, la gaine ne pèsera pas bien, bien. Mais mettons, avant votre mélange, là, avant de le mettre en boyau, pèsez-le, puis après ça, mettons, ça dit n'importe quoi, 1000 grammes. Bon, bien là, vous mettez 3 grammes de nitrite. Là.
OK, OK.
Okay. C'est important de bien le brasser. Parce que si vous mettez une nitrite à la fin, vous faites juste brosser vite, la nitrite va être toute à la même place, ce qui est pas vraiment bon pour le nombre de parties par million dans votre système. Là.
Est-ce que d'avoir un hachoir, c'est un essentiel ou quelqu'un de crinqué peut le faire au couteau?
Hachoir essentiel obligatoire même. Quand on va venir faire de la saucisse, on ne pourra pas faire ça au couteau. C'est la question est super bonne. Puis, autre chose, si vous faites de la saucisse fraîche, c'est pas pire, mais souvent, le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'acheter, mettons, un KitchenAid, name it la marque, puis là, ça hache, puis là, après ça, tu peux venir te mettre un beau petit bout après pour pousser de la saucisse. Ah, okay. Fait que ça, c'est pas mal l'affaire la plus populaire, mais c'est la pire affaire pour faire de la saucisse.
Ah
la
ouais? Pire. Pourquoi?
S'il y en a qui m'écoutent et qui l'ont fait, vous allez tous me vous voir aller. C'est que là, d'un, tu viens acheter ta viande et le pire ennemi qu'on va venir faire de la saucisse, c'est la chaleur. Pas pour les bactéries, pour les bactéries, mais si votre chair, votre viande chauffe, quand vous allez venir faire de la saucisse, votre gras va fondre. D'un, va pogner dans votre vis. Vous allez arriver pour pousser, ça va jammer. Oh. Fait que c'est pour ça qu'il y a des ice packs même qui se vendent pour les hachoirs à viande pour venir mettre ses bouts. Ben, première des trucs que je vous dis, votre bout dans le congélateur avant même d'acheter de la saucisse. Fait que un KitchenAid, ça va forcer et ça va venir faire de la chaleur. Deuxième des choses, le pire ennemi de la saucisse, c'est l'air. Et quand vous allez arriver pour mettre l'autre module sur le KitchenAid, là, vous allez reprendre votre chair qui a été hachée, vous allez venir mettre ça dans le trou, vous allez venir pousser ça avec un petit bâton, puis là, ça pousse après ça dans la saucisse. Clairement qu'à chaque coup de bâton que vous faites, il y a de l'air qui vient rentrer. Tandis qu'un vrai poussoir à saucisse, c'est un cylindre. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est un cylindre avec un carrément une manivelle qui vient peser sur de la chair, mais l'affaire qu'on ne voit pas nécessairement, c'est qu'au-dessus du cylindre, il y a une soupape. Et quand on vient peser sur notre viande, l'air sort par en haut et non dans le boyau.
OK. T'as-tu une marque à conseiller plus qu'un autre?
Non, puis achetez pas de marque, OK? Façon de parler, un hachoir, là, c'est pas un moteur de char, c'est pas un hachoir, mais un poussoir à saucisse, c'est pas un moteur de char, c'est juste une manivelle avec un gear. Fait que sur Amazon, vous allez en avoir à 140 pièces qui vont faire la job comme un twist-padé à 600 pièces qui est italien. Fait que ça, payez pas une fortune. Puis pour le hachoir à viande, il y en a. Moi, j'ai un Cabelas. Il tombe en spécial durant la fête des Pères qui s'en vient à chaque année. Je ne suis pas payé pour vous dire ça. Ça fait 8 ans que je l'ai. Je n'ai pas passé au travers encore. C'est une machine de guerre. Puis plus qu'il va être fort, moins que vous allez avoir de la misère avec votre viande, puis moins qu'elle va chauffer. Fait que, puis tu sais, on parle d'un 500$ pour un choix de fou. Là. Tu ne pèses même pas sur ta viande quand tu la mets dedans, puis elle sort au bout. Là.
OK. Allez, maintenant, Michel veut savoir. Salut, JF. Peux-tu demander au maître fumeur si ajouter du gras, il m'a écrit en parenthèse, du beurre, à des pièces trop secs peut les rendre fumables?
Non, honnêtement, c'est que qu'est-ce qui va arriver, c'est quand vous allez venir injecter du beurre dans des pièces qui sont trop secs, c'est durant la cuisson, le trou que vous avez fait, le beurre va être porté à ressortir. Oui, il va en rester un peu. Oui, ça va aider la saveur. Tu sais, comme exemple, moi, j'injecte ma dinde avec du beurre. Fait que oui, tu sais, ça va donner un goût et tout. Mais ce qui va vraiment changer, puis au prix du beurre, honnêtement, pour la différence que vous allez avoir, ça sera pas la grosse différence. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une saumure à la place qui va faire en sorte que quel liquide va venir rentrer dans la pièce de viande. Puis ça va être beaucoup plus juteux de cette façon-là. Fait que perdez pas de temps à injecter du beurre puis saumurez votre pièce de viande à la place.
Fait que saumure pour tout ce qui est... Parce que d'après moi, Michel, oh, oui. Il était plus sur une lignée de viande, de gibier. Ça, il m'a l'air d'être un chasseur. Fait que saumure pour tout ce qui est chevreuil, tout ça, c'est un must.
Oui, c'est un must, mais en même temps, qu'est-ce que ça va apporter, la saumure? C'est pas juste la tendreté, surtout pour la viande s'il est dans le gibier. C'est que souvent, les viandes, on va trouver ça plus ferreux, les viandes de bois. En passant ça à saumure, le phénomène d'osmose va venir retirer le sang de la pièce de viande et va venir le remplacer par le saumure. Qu'est-ce qui va vraiment adoucir le goût fois mille? Parce que souvent, bien, j'ai vu du monde faire des ateliers pour les chasseurs, puis ça me faisait rire parce que le chevreuil goûte plus le chevreuil. Là. Il y a 3 pouces de rubs par-dessus ça. Justement, il est injecté avec du beurre au romarin. Puis, c'est parce que si t'aimes plus ta viande, là, si t'aimes pas la viande, cuisine-la pas. Tandis que la saumure, ça va vraiment juste venir rehausser de la saveur naturelle. Ça va venir donner une tendreté. Là.
OK. Hey, petite dernière question.
Yes.
Puis je sais même pas si elle est pertinente parce que peut-être la personne se trompe de groupe. Parce que on n'a jamais parlé de déshydratation, mais est-ce que t'as des conseils pour quelqu'un qui veut faire son propre jerky?
Yes. Dans le fond, pour faire son propre jerky, premier conseil qu'il faut savoir quand vous allez le faire, bien, de un, le jerky, c'est une pièce de viande qui est très maigre. OK, qu'on va venir faire avec une viande qui est maigre. Donc, l'intérieur de ronde, c'est la pièce de prédilection la moins chère pour venir faire son jerky. Okay. Faut, quand vous allez l'acheter, regarder sur l'étiquette que ça ne soit pas écrit « attendri mécaniquement ». Pourquoi? C'est attendri mécaniquement, vous ne serez pas capable de rien faire avec ça parce qu'elle est déjà piquée à grandeur. Un jerky, on veut une pièce de viande qui est un peu fermetée, mais qui soit étendue en même temps.
Fait est-ce qu'on deux gagne? Choses... Le, oui, la ronde, l'intérieur de ronde est moins cher, mais est-ce qu'on gagne à une autre pièce niveau saveur ou ça vaut pas la peine?
Tout. Okay. Ça vaut pas la peine. C'est, on va tout le temps prendre les pièces de viande qui sont les plus maigres, donc qui, honnêtement, goûtent pratiquement rien parce que c'est dans le gras qu'on vient chercher notre goût. Mmh. Fait qu'intérieur de ronde, puis dans, mettons le chevreuil, les viandes de gibier aussi, c'est très populaire pour le jerky parce que justement, il n'y a pas de gras, c'est raide d'avance.
Okay.
Fait qu'on commence avec ça, pas piqué. Puis ensuite de ça, on va trancher des tranches d'à peu près, je vous dirais, à 1 cm de largeur. Puis on peut venir les faire fumer. Puis on peut venir les faire déshydrater. On passe ça d'une marinade, bien entendu. Puis le secret de la marinade, ça va être le sucre. Okay? Le sucre, vous ne le goûterez pas nécessairement, mais ça va venir attendrir la viande avec les enzymes. Et vous pouvez venir mettre du jus d'ananas à l'intérieur. C'est le summum. Okay? Le jus d'ananas, quand vous allez venir le mettre. Oui. Puis là, par contre...
Ça goûte-tu beaucoup l'ananas?
Zéro pin bar. Mais l'erreur qu'il faut savoir, puis que le monde ne sait pas, puis je vois ça, je veux faire une capsule là-dessus, justement, ça me fait rire, c'est que le monde va acheter du Oasis, okay, du jus d'ananas Oasis. C'est du jus 100% pur ananas, je ne dis pas le contraire. Mais le problème avec ça, c'est que tous les jus qui sont en pinte à l'épicerie sont pasteurisés. Et lorsqu'ils sont pasteurisés, cette enzyme-là meurt. Fait que le monde pense faire des marinades avec le jus d'ananas parce que c'est reconnu comme quoi c'est un attendisseur. Tellement attendisseur que, mettons, tu peux pas mettre un poulet pendant 24 heures là-dedans, il va devenir liquéfié.
OK. Okay?
Fait que, mais là, le monde, ils pensent que là, ils ont fait, mais non, faut t'achètes des ananas et tu presses le jus de l'ananas. Parce que sinon, il y a une pasteurisation qui a été faite préalablement pour que ça se conserve pendant des mois. Fait que le monde ne le savent pas.
Gros
ça, c'est
détail.
Un petit truc. Et vraiment, vraiment gros détail. Mais, hein? Fait qu'on fait mariner ça 24 heures. Après ça, on vient mettre ça soit au déshydrateur, soit dans le fumoir à très basse température. Je vous conseille de regarder sur l'instrument que vous avez pour la déshydratation parce que je ne veux pas me lancer parce que ça peut dépendre des machines, la convection, ainsi de suite. Et pour savoir quand c'est prêt, vous pliez le jerky et lorsque vous voyez des filaments blancs, il est prêt à sortir du fumoir ou de la déshydratation, pas avant et encore moins après. Parce que si vous attendez après cette phase-là, il va casser, il sera plus mangeable.
Hey, Maître Fumeur, un gros merci, Krim. Merci, Mickaël.
Ça fait plaisir.
Si les gens veulent davantage de ton univers, des recettes également, maîtrefumeur.com, c'est un must.
Yes.
Tout est
puis,
là.
Facebook, venez follow with Maître Fumeur sur Facebook. C'est pas mal tout là que ça se passe. Instagram, j'ai commencé à être un petit peu plus présent là. TikTok aussi, fait que je me présente un peu partout, puis venez me jaser, puis je suis tout prêt à vous donner des trucs.
Génial. Puis nous autres, on se reparle la semaine prochaine pour notre dernière semaine de la saison. Puis les deux, Louis et moi, on fait des remplacements cet été, fait que il serait pas étonnant qu'on te lâche des coups de fil.
Parfait, lancez-moi un petit messenger, puis je suis tout le temps là pour vous autres.
Génial. Yes, on se repogne la semaine prochaine, Mickaël. Merci beaucoup.
Yes. Bonne soirée, bye.
Salut, bye-bye. Mickaël, le maître fumeur, le meilleur de la business, mesdames, messieurs. Petite pause, on vous revient, ce sera pas long.
Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.